En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour épouse ? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir, ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » Palavra da salvação. Frères et sœurs, est-ce que nous attendons la résurrection des morts ? Est-ce que nous attendons la résurrection de la chair, la transformation de nos corps mortels, encore glorieux à l'image de celui de Jésus ressuscité ? Ou bien on pourrait se poser la question, à quand remonte la dernière fois où nous avons médité et espéré cet événement ? Je ressusciterai jusque dans mon corps, notre corps ressuscitera. Quand on remonte, la dernière fois, vous avez regardé quelqu'un, là, comme ça, et vous avez dit, toi aussi, tu es appelé à la résurrection, comme moi. Si vous n'en avez aucune idée, je peux vous dire que vous l'avez affirmé dimanche dernier, au moment du « Je crois en un seul Dieu ». J'attends la résurrection des morts. Et espero a resurrección dos mortos. Ou lorsque vous avez récité le symbole des apôtres, je crois en la résurrection de la chair. Creo na resurrección da carne. C'est donc très important au cœur de notre foi même, si ça figure dans le credo qu'on apprend et qu'on récite tous les dimanches. Et c'est d'autant plus important que la résurrection de la chair, c'est une spécificité de la foi, de la révélation judéo-chrétienne. Quand on regarde dans les autres cultures, quand on regarde dans les autres peuples autour d'Israël, il n'y en a aucun qui professe la résurrection de la chair. Il n'y en a pas d'équivalent. Vous allez chercher chez les Grecs, vous allez chercher chez les Romains, chez les Égyptiens, les Babyloniens ou les Assyriens. Oh, ils font des tombeaux, il y a une espèce d'idée peut-être de survivance de l'âme, un peu comme une ombre ou bien rien du tout. Mais cette affirmation d'une résurrection jusque dans la chair est propre à la foi chrétienne. On en trouve la trace dans l'Écriture avec le prophète Ézéchiel au VIe siècle, dans ce chapitre 37, où le prophète a une vision d'un champ d'ossements complètement desséché. Il insiste sur ce détail parce qu'à l'époque, l'eau dans le corps est considérée comme le signe de la vie. Alors s'ils sont complètement desséchés, c'est qu'il ne reste plus du tout de vie entre eux. Et Dieu invite le prophète à prononcer une parole de vie. Et voilà que ce champ d'ossements desséchés, tout d'un coup les os se rapprochent les uns des autres, de la chair, des nerfs, de la peau, et l'Esprit de Dieu est déversé sur eux et ils reprennent vie. Ou bien, dans la première lecture que nous avons entendue, où ceux qui sont martyrisés professent l'espérance en la résurrection des morts, en la résurrection de la chair. Alors je tiens à souligner ça parce que pour qu'un élément de foi se maintienne face à des cultures si puissantes autour d'Israël, Vous imaginez, le petit pays d'Israël, c'est pas grand-chose. Il y a la grande culture égyptienne, la grande culture grecque, la grande culture de Babylone. Et ils ont tenu bon pour dire, nous croyons en la résurrection de la chair, en la résurrection des morts. C'est donc que c'était quelque chose qui s'est imposé à eux, vraiment comme révélation divine. Jésus va faire une affirmation claire de la résurrection d'entre les morts dans sa prédication. Nous l'avons entendu dans l'évangile de ce jour, on peut penser encore à son insistance dans l'évangile selon saint Jean, « Celui qui croira en moi, qui sera nourri de mon corps et de mon sang, moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Une affirmation qui a été confirmée par sa propre résurrection. Saint Paul insistera pour dire « c'est le cœur de notre foi ». Si les morts ne ressuscitaient pas, alors le Christ non plus ne serait pas ressuscité et notre foi serait vaine. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts. J'insiste, cette annonce de la résurrection de la chair a été une difficulté pour les apôtres. On peut penser à saint Paul quand il va à Athènes, les gens d'abord se regroupent pour l'écouter, ils sont intéressés, tiens, qu'est-ce que c'est que ce Jésus dont il parle ? Et puis au moment où il évoque la résurrection d'entre la chair, les gens commencent à se moquer de lui. Mais qu'est-ce que c'est que ce perroquet qui nous parle là ? On t'écoutera un autre jour sur cette question. Et si les apôtres n'ont jamais abandonné cela, c'est qu'ils ne le pouvaient pas. La résurrection de Jésus, la résurrection jusque dans la chair de Jésus, annonce de notre propre résurrection, s'était imposée à eux. Ils ne pouvaient pas le passer sous silence. Et quand on regarde l'histoire du salut, on va se rendre compte aussi que le corps, notre corps, est impliqué dans toute l'histoire du salut. Ça commence dès l'origine, cet homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu se fait à partir de la glaise du sol à laquelle Dieu insuffle son haleine de vie, puis il tire de son côté de quoi façonner la femme. Et de cet homme et de cette femme, dans le monde, Dieu dira « cela est très bon ». Ça implique « cela est très bon » de l'homme comme âme incarnée, comme corps animé. On est bien loin de l'idée des Grecs « notre âme est prisonnière du corps, il faut qu'elle s'en libère pour trouver une vie véritable ». Et regardez comment dans l'histoire du peuple hébreu, ça commence apparemment mal. Abraham avec sa femme, ils sont stériles, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et Dieu va intervenir pour que le peuple naisse de leur chair. C'est de ta descendance, de ta chair, que viendra celui qui porte la promesse. Dès l'origine, le corps est pris dans l'histoire du salut. Saint Paul dira, le Christ nous a réconciliés dans son corps de chair. Et l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera la vie à nos corps mortels. Et pourtant, cette espérance de la résurrection, elle est parfois un peu endormie chez nous. On dira, oui, je l'ai entendu, mais finalement, ça ne change pas grand-chose à ma façon de vivre, ça ne change pas grand-chose à ma façon de me comporter dans le monde, ça ne change pas grand-chose à ma façon d'être avec les autres. Alors c'est vrai que nous avons perdu ce caractère brûlant de l'attente de la résurrection. Ça s'explique un peu par le fait qu'on attend depuis longtemps la venue de Jésus en gloire. Les apôtres, après la Pentecôte, ils pensaient que le Christ allait revenir, mais c'est dans 2 jours, c'est dans 1 semaine, peut-être dans 6 mois. Et donc cette espérance était toute brûlante. Et le temps qui passe a fait que on oublie un peu la promesse de Dieu. Il y a eu aussi dans l'histoire des mouvements qui ont voulu se saisir de cette espérance, mais qui ont été des mouvements violents, qui ont été des mouvements un peu dangereux, ce qui fait que dans sa prédication, l'Église a moins insisté là-dessus. Au Moyen-Âge, du coup, on a plus insisté sur le salut de l'âme. Mais pourtant, la résurrection d'entre les morts est au cœur de notre foi. Je voudrais insister maintenant sur quelques points éclairs que nous confie cette espérance en la résurrection d'entre les morts. La première chose, c'est, je dirais, de remarquer que je ne suis pas moi-même sans mon corps. Mon corps appartient à ma dignité, à mon histoire et y compris à ma relation à Dieu. Le corps me rend solidaire de l'univers. Et vous savez que dans le livre de l'Apocalypse, on parle de cieux nouveaux, on parle d'une terre nouvelle. Eh bien, la résurrection des corps induit une participation de toute la création au salut. La création attend la liberté grâce à la gloire donnée aux enfants de Dieu à travers la résurrection. La création que nous contemplons sera associée au salut que Dieu veut nous donner. Et cela explique que les chrétiens ont le souci de la défense de l'environnement. Parce que notre création doit avoir part au salut. Ce n'est pas simplement un souci maintenant en disant « mais de terre, on n'en a qu'une, et donc si on la ravage, on ne pourra plus vivre dessus ». Il y a ça, mais il y a aussi le fait que la création doit participer aussi à la vie éternelle. Et vous remarquerez que le souci de l'écologie, actuellement, c'est un souci qui semble partagé, mais il n'y a qu'une seule religion qui enseigne officiellement dessus, ce sont les chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'ils croient en la résurrection de la chair. Notre corps nous rend aussi solidaires des autres hommes. Celui qui est à côté de moi, là, il a les mêmes besoins que moi. Il a besoin de manger, il a besoin d'un lieu pour être abrité. Il s'émerveille quand il se promène dans une forêt. Il a les mêmes besoins que moi. C'est par notre corps que nous avons souci les uns des autres, que nous venons aussi en aide les uns aux autres. Et saint Jean-Paul II, en regardant le corps de l'homme, s'émerveillait face à une situation toute particulière. Il se disait que lorsqu'un couple conçoit un enfant, voilà qu'ils sont trois en un seul corps. Voilà qu'ils donnent à ce moment-là une image toute particulière de la Trinité, exprimée dans leur chair. Et sans leur chair, ils ne pourraient pas le faire. Seule une résurrection des corps nous rendra cette solidarité mutuelle. Un salut de l'âme seule sera un salut solitaire. De plus, nous allons peut-être le vivre dans un instant pour ceux qui ont fait leur première communion, nous recevons aujourd'hui, à chaque messe, le corps du Christ dans notre corps. Serait-il possible qu'on ait eu sur cette terre une intimité avec le corps de Jésus ? Quand le prêtre vous présente Jésus hostie, vous dit bien « o corpo du Cristo », le corps du Christ, et que dans la vie éternelle, on ait perdu cette intimité avec le Seigneur jusque dans notre corps. La résurrection des corps m'oblige à respecter nos corps humains aujourd'hui, à en prendre soin, à l'entretenir parce qu'il est appelé à la résurrection. Et c'est le cœur de l'engagement des chrétiens auprès des malades, des personnes handicapées ou des mourants. Là où la société risque de ne voir que des déchets, des êtres improductifs qui n'ont plus leur place dans la machine des biens portants, le chrétien voit un être à l'image du Christ souffrant, appelé à la résurrection dans sa chair. Un jour, si vous en avez l'occasion, regardez les témoignages de Mère Teresa sur le soin qu'elle portait aux mourants en Inde et l'étonnement que ça provoquait. Comment se fait-il que tu t'approches de moi ? Même ma famille m'a abandonné dans la rue parce que j'étais en train de mourir et que je puais. Et leur étonnement de l'entendre dire « Mais quand je te regarde, moi je vois le Christ. Quand je te regarde, je vois la chair du Christ. » Ce témoignage, ce soin, nous chrétiens, nous le portons au monde parce que nous croyons en la résurrection de la chair. Cette chair si petite, si fragile, si défigurée est appelée à la vie éternelle. Et c'est ce qui nous permet d'annoncer à une mère qui a perdu son enfant, en particulier avant la naissance, que son enfant ressuscitera dans un corps, qu'elle pourra le prendre dans ses bras, qu'elle l'entendra l'appeler maman, et qu'elle aura l'éternité pour lui donner sa tendresse de mère, parce qu'une mère c'est charnel. C'est le seul salut digne d'une telle situation. Alors aujourd'hui, peut-être que nous avons du mal avec notre espérance en la résurrection des corps, parce que nous rêvons parfois de corps parfaits, éternellement jeunes, performants, totalement soumis à notre maîtrise. Or, la résurrection de Jésus porte le signe des stigmates. Jésus ressuscité montre le signe de la passion. Son histoire a été assumée. C'est pas où il s'est rien passé, ni vu ni connu. Notre histoire, nous l'emportons en vie éternelle, mais voilà que les plaies qui faisaient mourir sont devenues des plaies glorieuses. Ce ne sont plus des plaies qui font mourir. Elles sont devenues glorieuses et donnent la vie. Demandons au Seigneur la grâce de nous réconcilier avec la beauté de notre corps, jusque dans leur fragilité. Et pour cela, il nous faut replacer au centre la résurrection de Jésus lui-même. Les évangiles nous le montrent sur une forme concrète. Nous avons mangé et bu avec lui après la résurrection. Nous l'avons touché de nos mains. Jésus leur a dit « Touchez-moi, palpez-moi, voyez que j'ai de la chair et des os. » Un fantôme n'en a pas. Comme ils ne croyaient pas encore dans leur joie, il leur dit « Est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» Ils lui ont apporté un peu de poisson et du pain qu'il a mangé devant eux. L'Eucharistie doit nous aider à cette réconciliation avec la beauté de nos corps, jusque dans leur fragilité. L'Eucharistie doit nous y aider, puisque nous y recevons le corps du Christ. Seigneur, en ce dimanche, nous te rendons grâce pour notre création, corps et âme, et cette espérance de la résurrection de la chair que tu nous as donnée. Apprends-nous à nous émerveiller, à aimer cette chair si fragile ou blessée. Fortifie notre foi et notre témoignage pour que nous prenions soin de la création et de nos frères appelés au salut. Amen.